Vous écoutez RTL.
Et tout de suite dans la curiosité sur RTL, les trésors de la ruche. Bonjour Dominique Sénat.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Soyez bienvenue. Vous êtes apiculteur, vous êtes porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française. L'abeille, ça devrait être la mascotte du Salon international de l'agriculture. Pourquoi elle est vitale à l'humanité?
Eh bien oui, ça pourrait être tout à fait la mascotte de ce Salon de l'agriculture. Alors pourquoi est-elle vitale à l'humanité? L'abeille est, on va dire, responsable, dans le sens positif du terme, d'un repas sur trois par jour. Tout simplement.
Bah oui. Fruits et légumes.
Fruits et légumes, viande, produits laitiers, toute notre chaîne alimentaire est quasiment concernée par l'abeille. Alors, souvent, on prend comme raccourci, si on supprime l'abeille de notre système, il nous resterait du pain, il nous resterait du riz, il nous resterait du thé.
Ce serait
voilà moins sympa. Un petit peu.
Et c'est important de le dire parce qu'elle est en danger aujourd'hui.
L'abeille est en danger. Donc la notion aujourd'hui est assimilée. L'abeille est en danger depuis une vingtaine d'années. Nous subissons des mortalités croissantes depuis 20 ans, puisqu'on était à 5% de mortalité il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 30-35%. Ça ne cesse de croître, mais il y a quand même des signaux optimistes. On ne va pas être que dans le pessimisme aujourd'hui. Le deuxième souci, c'est qu'on est en une belle terre de miel. La France est une belle terre de miel. On était, il y a 20 ans, à 30-32 000 tonnes de production nationale. L'an passé, on est à 9 000 tonnes. La consommation nationale n'évolue pas, on est sur l'ordre de 40 000 tonnes, ce qui veut dire que c'est aujourd'hui 60% de miel d'importation qui est consommé en France.
Alors, on va justement aider les auditeurs d'RTL à choisir ces produits, les bons produits, et puis dire pourquoi les produits de la ruche, eh ben, ils sont délicieux, ils sont bons pour nous. Pollen, miel, propolis, gelée royale, on va découvrir tout ça dans un court instant sur RTL. À tout de suite les curieux.
Premier jour de printemps, RTL. Une occasion que Jean-Jacques attendait avec impatience. Cet après-midi, il rend visite pour la première fois de la saison à ses petites protégées, des milliers d'abeilles qui ont élu domicile dans ses ruches.
La curiosité est un vilain défaut.
Elles produisent d'une part le miel, d'autre part la propolis, qui est une espèce d'antiseptique et d'antibiotique.
Des substances indispensables à leur survie, mais aussi très utiles à l'homme, dans le domaine du paramédical notamment.
Sidonie Bonnec, Thomas Huc. And honey, I
miss you. En direct du Salon international de l'agriculture de notre studio RTL, installé sur le stand Génération Fruits et Légumes Frais, au pavillon 2-2, avec l'apiculteur Dominique Sénat. On découvre les bienfaits des produits de la ruche, les bienfaits de ces abeilles. D'ailleurs, pour que tous ces fruits et légumes qui nous régalent chaque jour de notre vie, on a besoin de ces abeilles. Comment ça fonctionne d'ailleurs la pollinisation?
Alors la pollinisation, après 20 ans de pratique apicole, je trouve ça toujours magique. La stratégie qui s'est mise en place, elle est juste hallucinante. On est tous à la fois toujours agréablement surpris, émerveillé par les couleurs et les odeurs des fleurs.
Oui.
Eh bien, c'est tout simplement une stratégie pour attirer les insectes pollinisateurs. C'est-à-dire que les insectes vont les voir le mieux possible. Et la cerise sur le gâteau, c'est cette goutte de nectar que l'abeille, entre autres, va aller chercher au cœur de cette fleur. Et inconsciemment, l'abeille étant un insecte très très velu, inconsciemment, les pollens vont se coller sur l'insecte. Et l'abeille va aller de fleur en fleur et va ainsi à la fois prendre du pollen et redistribuer du pollen, c'est-à-dire cette pollinisation croisée. Voilà, c'est tout simplement magique.
Mais ça veut dire que les abeilles, elles savent reconnaître les fleurs en fonction de la couleur, c'est ça?
Et
elles transmettent ça, on ne sait pas comment, de génération en génération.
Tout à fait, la couleur, les odeurs.
Oui.
Mais je vous dis, la goutte de nectar, et nous tous, on a un point de repère qu'on ignore totalement, c'est les odeurs. On peut avoir les mêmes types de floraisons, acacia, tilleul, ce que vous voulez, avec des vents qui sont mal orientés nord-nord-est. Ça sent absolument rien. Vous pouvez avoir les mêmes rangées d'arbres, de fleurs. Et là, ça embaume. Ça veut dire que là, la fleur, elle cherche à se faire féconder, on va dire. Et l'insecte est attiré.
Ah, c'est la fleur qui drague les...
On va le dire comme ça. On va le dire comme ça. Et vous allez voir, ensuite, ça va intervenir sur la qualité des miels et sur, justement...
Ah, c'est pour ça qu'on a, par exemple, un miel de thym ou de châtaignier ou de sapin.
Tout à fait.
C'est pas du marketing, ça?
C'est pas du marketing. Hein. C'est-à-dire que quand l'abeille a sélectionné une ressource, parce que l'abeille est opportuniste, hein, faut pas quand même lui enlever ça, il y va de sa survie. Donc quand elle a choisi une ressource mellifère, c'est-à-dire que la ressource est abondante, et elle va, en règle générale, se fixer sur cette ressource-là.
C'est une fidèle.
Tant que sa miel.
Ouais.
Tant que sa miel.
Ouais. On dit ça?
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait. Voilà.
Tant que sa miel entre nous, on va continuer.
C'est vrai.
Alors,
Denis. Qu'est-ce qui peut abîmer leur pollinisation à ces abeilles-là? Parce que vous dites, elles se dirigent vers les plus belles fleurs, elles ont leur spot à elles. Qu'est-ce qui, dans l'action humaine, fait qu'à un moment, elles n'arrivent plus à trouver le lieu où se nourrir comme ça et butiner?
Eh bien, c'est ce que nous subissons, enfin, c'est ce qu'elles subissent, parce que nous, c'est par voie de conséquence, mais c'est ce que subit l'abeille depuis 20 ans. Malheureusement, c'est suite à l'apparition de nouveaux pesticides en fin des années 90 qu'on appelle les fameux néonicotinoïdes. Hein. Ce sont des neurotoxiques, donc c'est du non-retour à la ruche ou des intoxications aiguës et souvent des intoxications chroniques, c'est-à-dire...
Alors, attendez, vous allez un peu vite pour nous demander.
Elles sont perdues, en fait, c'est ça,
voilà.
ça
C'est de non-retour à la ruche.
Oui.
Et elles ne retrouvent plus le chemin de la maison, quoi.
Neurotoxiques. Hein.
Ah oui.
Et le problème, c'est que ce sont des produits dits systémiques, c'est-à-dire qu'ils sont véhiculés par la sève des végétaux. Et donc, le pollinisateur va chercher ça dans les pollens et les nectars.
Alors, on parlera des plans un peu généraux qui sont lancés. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, déjà, à votre niveau, en tant qu'apiculteur, pour protéger votre ruche? De quels moyens vous disposez?
Alors, nous essayons de mettre nos ruches dans des endroits plutôt sympas au niveau environnement pour nos insectes. Mais le seul problème, c'est qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que l'abeille est un pollinisateur. Donc il faut impérativement qu'on s'entende, et tel est l'objectif quand même avec l'agriculteur. Moi, l'agriculteur, il ne m'a rien fait. Hein. C'est ce modèle agricole aujourd'hui qui est plutôt compliqué, y compris pour eux. Et donc il faut impérativement que tous ces gens des mêmes territoires arrivent à s'écouter, à s'entendre pour que tout ça fonctionne.
Dominique Sénat, le miel, on sait à quoi ça sert pour nous, mais pour les abeilles, ça sert à quoi en fait? Pourquoi elles fabriquent du miel?
Le miel pour la ruche et l'énergie.
Ouais.
Voilà, donc l'abeille va se servir de ce miel-là, donc déjà pour se nourrir, pour développer sa colonie, pour alimenter une partie de ses larves. Elle va fabriquer une bouillie larvaire, c'est-à-dire que si ça ne miel pas, comme on disait tout à l'heure, eh bien, il n'y a pas de rentrée d'énergie, il n'y a pas de rentrée de miel à la ruche, et la ruche ne fonctionne pas. C'est la base vraiment de tout le fonctionnement de la ruche.
Mais alors, quand vous faites un prélèvement, bah, vous les privez d'énergie. Comment vous dosez, en fait?
Oui. Alors, comment nous dosons? On a une chance inouïe, c'est que l'abeille, elle n'a pas de notion de combien de réserves il lui faut. L'abeille est un insecte qui travaille énormément. Et si les ressources environnementales sont suffisantes, si ça miel dans tous les sens, eh bien, elle va stocker du miel au-delà de ce qu'elle a besoin. Après, l'apiculteur va aller prélever, eh bien, d'une façon raisonnable. Alors, tout dépend où on se trouve, tout dépend du mois en saison. Tout dépend aussi de l'operculation de l'humidité du miel.
Et ça veut dire quoi, ça? Operculation, voilà, l'humidité du miel, c'est quoi l'operculation?
Le miel que nous allons récolter doit être impérativement entre 18% et 17% d'humidité.
D'accord.
Autrement, il va fermenter. Composition du miel, globalement, c'est 50% de sucre, 50% d'eau. Eh bien, l'abeille va transformer ce nectar en miel. Ensuite, elle va ventiler et descendre cette humidité de 50% à moins 17-18% d'eau. Et ensuite, elle va operculer, c'est-à-dire qu'elle va fermer la cellule avec un opercule de cire. Et l'apiculteur qui travaille convenablement ne doit récolter que ce miel operculé.
Alors, comment choisir un bon miel? Quelles sont ses vertus? Réponse tout de suite sur RTL. Restez avec nous, les curieux, vous l'avez compris, ça miel.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Vous avez tous entendu parler des produits de la ruche, miel, propolis, gelée royale ou pollen. Mais savez-vous vraiment quels sont leurs intérêts pour votre santé?
La curiosité est un vilain défaut.
Pour réaliser un seul gramme de miel, les abeilles doivent butiner plus de 7500 fleurs. Déjà dans l'Antiquité, Hippocrate, le père de la médecine occidentale, recommandait le miel pour traiter notamment les ulcères et les plaies.
Sur RTL.
T'avais peut-être 14 ans, t'avais encore la tête velue.
En direct du Salon International de l'Agriculture, on rigole parce qu'il y a Coralie Lutinier, notre productrice, qui vous fait des grands signes. Il y a parfois un peu d'inertie. Mais bon, voilà, on est toujours là. On est toujours dans le hall 2.2.
Parce qu'elle vous trouve un charme fou.
Légumes, ça doit être pour ça. Et on est toujours avec l'apiculteur Dominique Sénat, porte-parole de l'Union Nationale de l'Apiculture Française. Vous êtes apiculteur vous-même. Est-ce qu'il y a un plan mis en place parce que vous nous disiez 35% de mortalité aujourd'hui en France parmi les abeilles? Est-ce qu'il y a un plan mis en place par les pouvoirs publics au niveau français, européen, que sais-je?
Oui, il y a effectivement une décision qui a été mise en application au 1er septembre 2018 sur l'interdiction donc de ces fameux néonicotinoïdes,
hein,
ces cinq molécules qui sont juste un poison pour nos abeilles. Donc maintenant, il va falloir qu'on tienne bon sur surtout la non-autorisation de dérogation, parce que c'est ça le risque derrière.
C'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs qui obtiennent des dérogations, c'est ça, ou des...
C'est possible sur certaines cultures, donc il faut qu'on reste vigilant là-dessus. Mais je répète ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas une guerre contre l'agriculteur non plus. Attention, on est bien clair là-dessus.
Et donc ça vient d'être mis en place.
Oui.
Ça prend combien de temps pour avoir si ça a de l'effet d'avoir interdit?
Raisonnablement, on pense que d'ici 3 ans à peu près, parce que la durée de vie de ces molécules dans les sols est de l'ordre de 1000 jours. C'est pas nous, ce ne sont pas des paroles d'apiculteurs, hein, ce sont des paroles de scientifiques qui aujourd'hui abondent à nos problèmes et qui font des études sérieuses et qui aujourd'hui sont en capacité de dire que voilà, une molécule reste dans les sols environ 1000 jours, donc c'est-à-dire à peu près 3 ans.
Dominique Sénat, on est ravis de vous avoir parce que vous allez aussi nous aider à choisir du bon miel. C'est vrai, au rayon miel, il y a un nombre de versions de miel. Il y a du thym, de l'acacia, du romarin, sapin, toutes fleurs. Et encore, j'en ai pas donné, je pense, un vingtième. Comment on s'y retrouve pour choisir son miel? Parce qu'on peut pas tout acheter.
Donc, ce que vous venez de dire en rayon dans les linéaires de miel, en fait, eh bien, c'est exactement la copie conforme de ce qu'on peut trouver sur le marché du miel français, c'est-à-dire à peu près 60% de miel d'importation, et aujourd'hui une très petite place sur les miels français.
Comment on détermine déjà un miel français? Vous nous conseillez d'acheter français?
Voilà.
C'est mieux?
Déjà, vous aurez sur votre pot de miel ou en direct chez un apiculteur donc les indications récoltées et mises en pot par l'apiculteur.
Alors, parce que si on achète par exemple du miel chinois, il y a peut-être pas de miel dedans, c'est ça?
Alors, c'est écrit en chinois la notice.
En chinois, mais par contre, on avait obtenu aussi un vote de nos parlementaires au mois de septembre l'an passé sur la modification des étiquetages, c'est-à-dire que devait apparaître à partir du 1er septembre 2019 l'identification des pays d'origine. Le Conseil constitutionnel a invalidé la décision des parlementaires, ce que nous regrettons, parce qu'il faut impérativement que le consommateur soit informé de ce qu'il va trouver, enfin des pays d'origine dont est constitué le pot de miel.
Mais oui, après, si ce sont des miels sympas, les Chinois, quel est le problème? Non, c'est pas du vrai miel.
On n'a pas forcément la garantie.
J'allais terminer. Ensuite, ouais. Le consommateur achètera en connaissance de cause. Mais je mets au défi, en fait. Quiconque.
Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai entendu dire qu'un miel chinois, par exemple, c'était un miel où il y avait beaucoup de sucre et pas de miel. Est-ce que c'est vrai, ça?
C'est le constat, oui. C'est le constat, malheureusement.
On peut rajouter des produits aussi. Oui. On n'est pas sûr que ça n'ait pas été coupé. J'en sais rien. À l'eau, glucose, je ne sais
glucose,
quoi.
Glucose, sirop de glucose.
D'accord.
C'est pour ça que le plus important, adressez-vous à un apiculteur français. Mm-hmm. Là, vous avez quand même un gage supplémentaire de qualité.
Et après, les saveurs, thym, acacia, tout ça, c'est au goût, en fait. Chacun. On goûte et puis on voit ce qu'on...
Nous avons parlé tout à l'heure des fleurs, des couleurs et des odeurs. Eh bien, les miels, c'est chaque fleur, chaque couleur, chaque odeur. Là, on a un miel toute fleur.
Vous êtes venu avec un pot de miel. Alors déjà, il y a Origine France, il y a votre nom, il y a votre adresse. Et donc là, il y a pas de... C'est toute fleur, donc c'est un mélange, c'est ça?
Et parce qu'on a la chance ou la malchance d'être en région parisienne et on a la chance d'avoir une variété florale très importante.
Ouais.
Eh bien, les abeilles mélangent tout. Et nous, enfin, personnellement, je récolte ce miel-là. Je trouve que chaque année, on va... sur des miels dont on ignore au final quel goût ils vont avoir.
Donc c'est une régalade de miel et c'est aussi très bon pour notre santé. Bonjour Olivia Métral.
Bonjour.
Vous êtes docteur en pharmacie, auteur d'une thèse en apithérapie. J'imagine qu'on se soigne avec les produits de la ruche, c'est ça?
C'est exactement ça.
Qu'est-ce qu'on peut soigner avec le miel?
Alors le miel, il a énormément de vertus thérapeutiques, hein, au-delà des gustatives dont vous venez de parler. Il a surtout de très grandes propriétés anti-infectieuses, que ce soit sur les bactéries, les virus, les mycoses. Donc on peut l'utiliser sur de nombreuses infections, ORL comme cutanées.
Mais ça, c'est à l'hôpital ou c'est nous qui pouvons l'utiliser?
Ben les deux, j'ai envie de dire. On peut l'utiliser, nous, pour nous traiter en automédication, mais il y a de plus en plus d'hôpitaux qui l'utilisent également dans leur protocole de soins. Ce ne sont pas les mêmes miels, comme vous en doutez. Ce sont des miels qui sont testés, pour la plupart qui sont stérilisés par radiation gamma avant pour éviter les contaminations, parce que les miels contiennent aussi des germes. Et puis, ce sont des miels pour lesquels on s'est assuré d'une certaine qualité thérapeutique, parce qu'il y a une grande variation d'un miel à l'autre.
Alors, il y a énormément de produits différents de la ruche. Par exemple, le propolis, c'est quoi et quelles sont les vertus du propolis?
Alors, c'est la propolis. En fait, c'est
pardon
un produit qui... c'est pas grave. C'est un produit qui est issu des résines que l'abeille va transformer, dont elle va se servir, en fait, pour protéger la ruche des infections, parce que c'est un produit qui a une énorme... il y a un énorme potentiel anti-infectieux. Et puis, pour colmater les entrées d'air, pour protéger du froid. Nous, on peut l'utiliser par voie orale sous forme d'extrait hydroalcoolique. C'est des mélanges qu'on va diluer dans de l'eau ou en pastilles à mâcher ou encore en application locale puisque c'est un très bon anti-inflammatoire.
Olivia Métral, vous donnez tous ces bons conseils dans ce livre « Le miel dans votre pharmacie » publié chez Baroque Éditions. On vous garde avec nous?
Ah oui, restez avec nous.
On a
encore plein de questions à vous poser sur les bienfaits du miel. Et puis, on va continuer avec Dominique Sena à découvrir, tiens, par exemple, pourquoi le venin de l'abeille peut nous faire un bien fou. À tout de suite, les curieux sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Les premières ruches, on voit beaucoup d'abeilles. Et donc, du coup, tu appréhendes pas forcément correctement la chose. Donc, tu es assez stressé. Elles le ressentent quand même un petit peu. Tes gestes vont pas forcément être très précis, surtout quand tu débutes.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'air en air.
Sur RTL.
L'apiculteur, c'est mal.
Et on a un apiculteur au micro de la curiosité en direct du Salon international de l'agriculture. C'est Dominique Sena, vous êtes aussi porte-parole de l'UNAF. Et nous avons au téléphone Olivia Métral, docteur en pharmacie. On parle des vertus de ces produits de la ruche et notamment du miel. On a tous un pot de miel chez nous et on peut par exemple, Olivia Métral, si on se brûle, appliquer son miel soi-même pour soulager sa brûlure?
Oui, ça peut être appliqué sur une brûlure ou sur une plaie, hein, même tant que c'est pas une affection qui demande une consultation chez un médecin. Il suffit juste d'appliquer un mélange de miel, de thym ou de lavande qui est très cicatrisant. On peut même ajouter des huiles essentielles telles que l'hélichryse ou la lavande au mélange, une goutte simplement, et puis l'appliquer et le recouvrir d'un pansement.
Il paraît aussi que le miel peut être utilisé ensuite de couches. De quelle manière ?
Alors, ça peut être utilisé toujours pour ses vertus cicatrisantes. On peut l'utiliser sur les cicatrices des épisiotomies. Et puis, c'est également recommandé, notamment par l'hôpital de Besançon, au cours de l'allaitement, pour prévenir et traiter les crevasses mammaires. Alors, encore une fois, c'est pas un miel anodin. C'est un miel qui va être stérilisé avant par rayon gamma. Donc, c'est des miels, la plupart du temps, commercialisés par des laboratoires pharmaceutiques. Parce que le bébé ne peut pas être mis en contact avant l'âge d'un an avec un miel qui pourrait contenir des germes liés au botulisme.
Et le venin d'abeille, alors ça m'a surpris. Comment on peut l'utiliser? En quoi il peut nous être bénéfique?
Alors ça, c'est une spécialité en soi, ça n'est pas la mienne, mais il y a certains protocoles qui recommandent l'application de piqûres d'abeilles autour des articulations pour des vertus anti-inflammatoires, anti-rhumatismales. Et donc, il y a certains hôpitaux, notamment aux États-Unis, qui utilisent ces techniques pour lutter contre les douleurs arthrosiques.
Merci beaucoup Olivia Métral,
merci
pour ces conseils à découvrir dans Le miel dans votre pharmacie, publié aux éditions Baroque. Merci
Dominique Sena. Il y a un autre produit incroyable de la ruche, c'est la gelée royale. Elle sert à quoi, cette gelée royale, au sein de la ruche?
Alors cette gelée royale sert à la nourriture de la reine. La reine est nourrie exclusivement à la gelée royale, ce qui lui donne une capacité de pondre qui est juste phénoménale, parce qu'aujourd'hui on sait qu'une reine en 24 heures peut pondre entre 1500 à 2500 œufs.
Sans la gelée royale, pas de
pondre. La nourriture exclusive de la reine.
Oui.
Et en deuxième lieu, cette gelée royale sert à élever en fait les larves d'abeilles. Hein. Et aujourd'hui on sait qu'entre le premier jour de naissance d'une larve et le sixième jour, parce que la vie larvaire c'est 6 jours, la larve prend 1800 fois son poids d'origine. Voilà, mais c'est une nourriture très très riche en protéines.
Mais là encore, Dominique Sena, comment vous faites, apiculteur, pour récolter cette gelée royale sans priver la reine, quoi?
Je ne récolte pas de gelée royale.
Ouais. Alors ceux qui le font
en fait vont mettre des ruches en situation dite orpheline, hein, et ils vont présenter des larves d'une certaine façon à une colonie qu'ils ont préparée pour que des jeunes abeilles. Et donc, ils présentent un certain nombre de larves. Et au troisième jour exactement, ils vont aller récupérer cette gelée royale au fond des cellules.
Donc quoi, ils forcent un petit peu la nature quand même?
Et complètement. Ouais. Il la force pas. Parce que naturellement, les abeilles vont chercher à élever, puisqu'elles sont orphelines. Elles ne perçoivent plus les phéromones de leur mère, de leur reine, tout simplement. Ouais. Eh bien, elles vont élever le nombre de larves que les abeilles vont leur présenter.
Le pollen, c'est bon aussi pour nous?
Le pollen, c'est très bon. C'est pareil, c'est un travail de fond qui va être fait sur l'organisme. Il faut faire ça en entrée d'hiver ou en sortie d'hiver, voilà.
Merci pour cette ordonnance et merci pour votre passion, Dominique Sena. Je rappelle que vous êtes apiculteur et porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Vous avez combien de ruches?
Une trentaine, voilà. Personnellement, une trentaine.
Il y a des saisons, là, en ce moment, elles sont endormies ou elles sont en pleine
bourre? La saison démarre trop vite et c'est là où on voit que les perturbations climatiques font que ça chamboule énormément de choses.
Prenez-moi Thomas en stage d'apiculteur.
Il n'y a aucun souci.
C'est du boulot. Merci beaucoup.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.